La dernière fois, nous n'avons vu que quelques questions d'introduction. Nous avons essayé de situer la méthode que nous emploierons en tenant compte à la fois de tout ce qu'il y a de légitime et d'intéressant dans l'exégèse actuelle, mais en nous référant aussi fondamentalement à la tradition de l'Église et spécialement à l'interprétation que les pères ont donnée des paraboles évangéliques. Aujourd'hui, nous allons commencer à étudier les paraboles elles-mêmes et nous prendrons comme thème ce qu'on appelle les paraboles du royaume. Ces paraboles du royaume, qui sont ainsi appelées parce que la plupart d'entre elles commencent par ces mots, le royaume de Dieu est semblable à ceci ou cela, ces paraboles du royaume sont vraisemblablement les premières que le Seigneur a prononcées. Nous les trouvons dans l'évangile de saint Matthieu, dans l'ordre suivant. Il y a la parabole du semeur, de l'ivraie, du grain de sève, du levain, et puis aussi du trésor et de la perle et du filet, que nous parlerons un peu plus tard. Je laisserai de côté ces deux dernières paraboles. Et dans les autres évangélistes, nous retrouvons plusieurs de ces paraboles à peu près à la même place, au moins dans les deux autres synoptiques, Marc et Luc, mais saint Marc ajoute par exemple la parabole du grain qui pousse tout seul, nous en parlerons aussi aujourd'hui. Donc ce sont des paraboles qui portent essentiellement sur le royaume de Dieu, qui sont des paraboles qui nous apportent directement un enseignement sur le royaume de Dieu. D'une certaine manière, toutes les paraboles ont pour objet l'un ou l'autre aspect du royaume, mais celle-là en parle plus explicitement, s'y applique plus explicitement. Et c'est pourquoi je crois qu'il est nécessaire, pour commencer, de dire quelques mots sur cette notion de royaume de Dieu qui est tellement centrale dans les évangiles, au moins dans les évangiles synoptiques. Je dis dans les évangiles synoptiques parce que le mot est plus rare chez saint Jean, dans l'évangile de saint Jean, et puis également plus rare dans les épîtres de saint Paul. Mais par contre, dans les évangiles, pour reprendre une expression d'un exégète français contemporain, sans que l'on puisse dire que ce terme synthétise l'enseignement intégral de Jésus, le règne de Dieu n'en est pas moins le centre vers lequel tout converge en profondeur. Donc, cette doctrine du royaume est tout à fait centrale dans les évangiles synoptiques, et c'est dire que ces paraboles du royaume vont exprimer un aspect particulièrement important du message du Seigneur tel que les synoptiques nous le rapportent. Quel est le sens du mot? Le sens du mot « royaume de Dieu ». En grec, il existe un mot unique, « vasilia », auquel correspond le terme latin de « regnum »,« regnum », qui désigne en fait des réalités différentes, bien que liées entre elles. Sous ce mot unique, que je traduis ici « royaume », Basilia, le Nouveau Testament et l'Ancien Testament aussi, d'ailleurs, où l'expression se trouve, au moyen de cette expression, sont désignées donc plusieurs choses différentes. Il y a d'abord la dignité de roi, le pouvoir royal lui-même. Le mot français qui correspondrait le mieux ne serait pas celui de royaume, mais de royauté. De royauté évoquant donc la dignité du roi ou son pouvoir. Le mot biblique, évangélique, royaume, évoque aussi le fait de devenir roi, d'accéder au pouvoir royal, le fait pour le roi d'établir sa domination sur un territoire et sur un peuple, puis d'y exercer son autorité. Et à cela correspondrait davantage le verbe régner et le substantif règne. Et c'est pourquoi, d'ailleurs, très souvent, au lieu de parler du royaume de Dieu, les exégètes de langue française parlent du règne de Dieu. Enfin, ce mot biblique de basilia, ce mot grec, peut signifier le domaine où s'exerce ce pouvoir royal, soit du point de vue géographique, le territoire où il s'exerce, soit du point de vue social, les deux étant généralement liés. Un peuple, une communauté. Et là, la traduction obvie est « royaume ». Le royaume est le milieu où l'autorité et l'influence du roi l'ont définitivement emporté sur toute puissance adverse. Donc le mot grec vasilia a toutes ses acceptions diverses. En hébreu, il existe en fait plusieurs mots hébreux pour désigner tout cela. Mais on ne peut pas dire que l'un ou l'autre de ces sens corresponde strictement à tel ou tel mot hébreu. En fait, ce sont des termes dont la signification est un peu fluente et il faut toujours se référer au contexte pour voir dans tel ou tel passage quel est le sens exact du mot. Et très souvent, ces différentes significations sont plus ou moins simultanément impliquées dans les passages où le mot, ou bien les mots évoquant le royaume, la royauté, sont utilisés. Donc il est important de tenir compte du contexte, et nous pouvons ici nous en tenir à ce mot de royaume, n'est-ce pas, mais en sachant que c'est un terme prégnant et qui évoque, donc j'y reviens, à la fois la dignité de roi, le pouvoir royal, le fait d'exercer ce pouvoir, d'abord de prendre possession de ce pouvoir, d'accéder à l'unité royale et de l'exercer, et puis enfin, le domaine, à la fois du point de vue géographique et social, où s'exerce ce pouvoir royal, le royaume au sens strict. Dans l'Ancien Testament, nous trouvons déjà, je vous le disais à l'instant, assez souvent ces termes qui évoquent la royauté, le règne et le royaume de Dieu. Cette notion donc de royauté, de royaume divin, est assez généralement liée dans l'Ancien Testament à la notion de victoire sur des ennemis, sur des forces adverses qui résistent à l'influence du roi, qui est Dieu, qui est le Seigneur. Et le royaume, le règne, correspond à l'établissement de la souveraineté de Dieu sur une sphère donnée. Et ces termes sont liés aux attributs de force, de puissance, de vaillance de Dieu. Cet établissement du royaume de Dieu, dans l'Ancien Testament, selon les différents textes, les différentes traditions, se réalise à divers niveaux et à un certain nombre de plans différents. Tout d'abord, certains textes d'Ancien Testament évoque une certaine royauté de Dieu, un certain règne de Dieu sur les puissances célestes, sur ces puissances célestes, les anges, qui forment la cour divine. Il y a une souveraineté de Dieu sur les anges. Et si on rapproche les textes les uns des autres, avec certaines données du Nouveau Testament, n'est-ce pas, nous pourrions rapprocher ce thème de la souveraineté divine s'exerçant sur les anges avec cet autre thème de la chute de Lucifer, n'est-ce pas, et de ce règne de Dieu reconnu par les anges fidèles. Bien sûr, les exégètes modernes qui sont toujours très soucieux de montrer toutes les attaches des textes bibliques avec des traditions, même non bibliques, babyloniennes ou autres, rattachent là à toute une mythologie du Proche-Orient, mais à travers cela, et même si dans le langage des emprunts ont pu être faits à des traditions non bibliques par les auteurs inspirés, tout cela est évidemment garanti par l'inspiration divine, et cette royauté de Dieu sur les anges, sur le monde angélique, est bien une réalité de notre foi. Et l'on peut véritablement parler d'un règne de Dieu au ciel, d'un règne de Dieu sur les puissances angéliques. À un autre niveau, la Bible évoque aussi l'aspect cosmique de la royauté de Dieu. Par la création, Dieu établit sa souveraineté sur la création matérielle, sur les éléments. Là encore, quelquefois d'ailleurs, certains textes bibliques s'expriment de manière assez épique, en empruntant aussi un vocabulaire à des traditions non bibliques, parlant d'une sorte de victoire de Dieu sur le chaos, sur les éléments, d'une façon assez dramatique d'évoquer la création. Il ne s'agit pas du tout, bien sûr, d'une mythologie quelconque dans la Bible, c'est simplement un langage poétique pour exprimer cette souveraineté de Dieu sur les éléments. Mais c'est aussi un aspect du royaume de Dieu, donc cette dimension cosmique du royaume. Puis nous retrouvons cette notion sur le plan historique. La royauté de Dieu s'exerçant sur Israël. Dieu est roi d'Israël. Et cette royauté se manifeste par la conquête de la terre promise, de la terre de Canaan, qui devient déjà un premier royaume de Dieu. Et quand la royauté s'établit en Israël, le roi d'Israël n'est en quelque sorte le vicaire de Dieu, l'icône terrestre du véritable roi qui est Dieu lui-même, n'est-ce pas, roi de son peuple, roi du véritable Israël. Mais comme cette royauté à la fois cosmique et historique n'est pas encore quelque chose d'entièrement réalisé, que toutes les puissances adverses ne sont pas dominées, que la création d'une part n'est pas encore transfigurée, que d'autre part le royaume terrestre de Dieu n'est pas définitif, n'a pas sa forme définitive, toute une part des textes de l'Ancien Testament évoque aussi la dimension eschatologique de l'établissement du royaume. Le royaume existe déjà d'une certaine manière, mais est encore aussi à établir. La plénitude du royaume est à venir. Et cela sous son aspect social, le véritable peuple de Dieu sur lequel la royauté de Dieu s'exercera en plénitude, c'est le peuple de la Nouvelle Alliance, c'est le peuple messianique définitif que les prophètes annoncent. Cette royauté eschatologique de Dieu sera aussi une royauté cosmique, car les prophètes ne séparent jamais le salut de l'humanité d'un certain salut apporté à tout le cosmos. Ce sera vraiment l'établissement de cieux nouveaux et d'une terre nouvelle. C'est toute la création qui sera associée à cet événement eschatologique du royaume définitif. D'une certaine manière aussi, il y a un lien entre ce royaume eschatologique définitif et la royauté de Dieu sur le monde angélique, car à ce moment-là, justement, l'humanité accédera en quelque sorte à une condition céleste. Il y aura comme compénétration du royaume céleste, du royaume terrestre de Dieu. C'est tout l'aspect de vie angélique, je dirais, auquel l'humanité est appelée, n'est-ce pas, pour former un seul royaume divin. Et puis enfin, alors, toute une part des textes prophétiques lient à cette annonce du royaume eschatologique une autre annonce, celle de la figure du Messie, du roi messianique, qui sera l'instrument de l'établissement de ce royaume définitif de Dieu sur son peuple. Roi messianique en qui s'accomplira cette figure qu'est le roi terrestre d'Israël, qui était comme le vicaire de Dieu pour le royaume actuel, historique, de Dieu sur son peuple. Donc vous voyez toutes les dimensions de cette notion de royaume de Dieu dans la Bible, à la fois royaume déjà réalisé, puis encore à réaliser dans l'avenir eschatologique. Dans le Nouveau Testament, nous retrouvons donc dans les synoptiques surtout cette expression, royaume de Dieu, mais aussi sous la forme royaume des cieux. Cette forme royaume des cieux s'explique probablement par un usage qui s'était répandu dans le judaïsme à l'époque rabbinique, où on avait un extrême souci par révérence envers Dieu, envers le nom de Dieu, d'éviter d'employer ce nom de façon courante, pour ne pas le profaner en quelque sorte, et l'expression royaume des cieux était l'une des manières utilisées pour évoquer par une périphrase le royaume de Dieu. Mais il est possible aussi que cette expression « les cieux » veuille insister en même temps directement sur la transcendance de Dieu, la transcendance de ce royaume. Et le royaume eschatologique, dont la réalisation apparaît imminente dans les évangiles, est un royaume ainsi céleste, un royaume transcendant aux réalisations terrestres. Ce que nous trouvons dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament au sujet de ce royaume, peut se résumer dans les traits suivants. Tout d'abord, et c'est là peut-être le cœur même du message évangélique, le royaume de Dieu est lié à la personne de Jésus. C'est le Christ qui est vraiment le roi messianique. En lui, par son avènement, les temps sont accomplis et le royaume des cieux, le royaume de Dieu est tout proche. C'est le message que nous trouvons déjà en Saint Marc 15, n'est-ce pas ? Le temps est accompli, donc toutes les préparations, tout ce royaume terrestre qui convergeait, qui devait s'acheter dans le royaume eschatologique est accompli, et le moment de l'avènement du royaume eschatologique est là, est imminent. Le royaume de Dieu est tout proche, repentez-vous, croyez à la bonne nouvelle, à l'évangile, à l'annonce de ce royaume. Le royaume de Dieu est tout proche, cette proximité signifie que le royaume est là. Il n'est pas encore définitivement établi, mais dès lors que le Christ est présent au milieu de son peuple, le royaume s'offre à nous et il faut prendre position à son égard. Ce royaume, tel que les évangiles nous l'annoncent, nous le décrivent, est à la fois un royaume intérieur et spirituel et un royaume qui a une dimension communautaire et visible. Royaume intérieur et spirituel. Le royaume, dans les évangiles, est fondamentalement une réalité qui est reçue à l'intérieur des cœurs, à l'intérieur des âmes. Et là, il faut citer le mot si caractéristique du Seigneur dans Saint Luc 17-21, « Le royaume de Dieu est au-dedans de vous ». Toute la tradition ancienne de l'Église a interprété ce texte, n'est-ce pas, avec la particule « endos », dans le sens de « au-dedans de vous », le caractère intérieur du royaume. Un certain nombre d'exégètes plus récents, contemporains, traduisent « le royaume de Dieu est parmi vous, est au milieu de vous », comme si ce texte signifiait simplement que le Christ est au milieu de ses auditeurs, au milieu du peuple d'Israël, mais le terme lui-même signifie bien « au-dedans », il exprime bien cette intériorité. Et tous les pères, toute la tradition ancienne de l'Église, a compris ce texte dans ce sens d'intériorité et d'excellents exégètes contemporains, comme par exemple le père Feuillet, un exégète catholique actuel, avec une grande sensibilité à la fois aux exigences de la critique historique, mais aussi de la densité spirituelle des textes, est tout à fait partisan de cette interprétation. Donc, royaume intérieur et spirituel. Au fond, c'est la présence intime du Saint-Esprit, la création du cœur nouveau dont parlaient les prophètes. Cette loi de Dieu qui n'est plus une loi extérieure mais qui est inscrite dans nos cœurs. C'est tout cela qui évoque le royaume de Dieu. Mais en même temps, inséparablement, ce royaume de Dieu annoncé dans l'Évangile, proclamé par l'Évangile, a une dimension visible et communautaire. Et l'on peut dire que le royaume, c'est l'Église. C'est à la fois la présence de l'Esprit dans les cœurs, mais c'est le lieu où cette présence de l'Esprit se réalise, c'est la communauté visible des disciples, l'Église, et l'Église dans sa dimension institutionnelle elle-même. D'autre part, ce royaume, qui est le royaume eschatologique, qui est l'accomplissement des figures et des prophéties de l'Ancien Testament, reste cependant un royaume à la fois présent et à venir. Il est présent par l'établissement terrestre de l'Église. L'Église est déjà la réalisation actuelle de ce royaume, et pourtant n'en est pas la réalisation plénière et définitive. Et seul le second avènement du Christ, son avènement à la fin des temps, en sera l'accomplissement définitif. Et tous les textes évangéliques relatifs au royaume, donc, ne peuvent se comprendre que si on a tout cela présent à l'esprit. Alors, venons-en maintenant aux paraboles du royaume. Je vous ai dit que ces paraboles étaient essentiellement la parabole du semeur, de l'ivraie, du grain de sénevé, du levain, auquel il faut ajouter la parabole de Saint Marc, du grain qui pousse tout seul. Et puis, il y a aussi la parabole du trésor et de la perle, du filet, mais dont je vous parlerai une autre fois parce qu'elle nous entraînerait à exposer des thèmes un petit peu différents de ceux sur lesquels nous nous concentrerons aujourd'hui. Donc nous allons parcourir ces diverses paraboles les unes après les autres. Tout d'abord, la parabole du semeur. J'y ai déjà fait allusion la dernière fois parce que cette parabole est donc très vraisemblablement la première que le Seigneur ait prononcée, et c'est pour cela qu'elle a provoqué un certain étonnement parmi ses auditeurs. Et c'est à cette occasion que le Christ a expliqué la raison d'être des paraboles. Dans ce texte un peu énigmatique, d'ailleurs rapporté différemment par les synoptiques, que j'ai commenté la fois précédente. La parabole du semeur, vous la connaissez, je vous la lis telle que saint Matthieu la rapporte. Donc, en ce jour-là, Jésus sortit de la maison, était assis au bord de la mer, et des foules nombreuses se rassemblèrent auprès de lui, si bien qu'il monta dans une barque et s'assit, et toute la foule se tenait sur le rivage. Et il leur dit beaucoup de choses en paraboles, disant, Voici que le semeur sortit pour semer. Et pendant qu'il semait ses grains, les uns tombèrent le long du chemin, et les oiseaux vinrent et le mangèrent. D'autres tombèrent sur les endroits pierreux, où ils n'avaient pas beaucoup de terre, et aussitôt ils levèrent parce qu'ils n'avaient pas de profondeur de terre. Et le soleil s'étant levé, ils furent brûlés, et parce qu'ils n'avaient pas de racines, ils se desséchèrent. D'autres tombèrent sur les épines, et les épines montèrent et les étouffèrent. D'autres tombèrent sur la bonne terre, et ils donnaient du fruit, l'un 100, l'autre 60 et l'autre 30. Que celui qui a les oreilles entende. Et nous trouvons un peu plus loin, dans les trois synoptiques encore, l'explication de cette parabole. Voici le texte de saint Matthieu. Vous donc, dit le Seigneur, écoutez la parabole du semeur. Quiconque entend la parole du règne, du royaume, et ne comprend pas, le malin vient et ravit ce qui a été semé dans son cœur, c'est celui qui a été semé le long de la route. Celui qui a été semé sur les endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole et aussitôt la reçoit avec joie. Mais il n'a pas de racine en lui-même, il est mobile. S'il arrive une tribulation, une persécution à cause de la parole, aussitôt il achoppe. Il se scandalise au sens de heurte sur une pierre d'achoppement. Celui qui a été semé dans les épines, c'est celui qui entend la parole, et le souci du siècle et les délices de la richesse étouffent la parole, et il ne peut faire de fruit. Mais celui qui a été semé sur la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et comprend, qui porte des fruits et produit l'un 100, l'autre 60 et l'autre 30. Donc déjà dans l'évangile, nous trouvons les données essentielles pour l'interprétation de cette parabole. Je signale simplement que le texte évangélique nous dit que le Seigneur proclame cette parabole se trouvant dans une barque, et les pères, notamment Saint-Hilaire de Poitiers, soulignent le fait pour montrer que, l'enseignement du Christ nous est donné dans cette barque qui est l'Église, et qu'il faut le comprendre, le lire dans l'Église, en Église. C'est ce que je vous ai donné dernier point, n'est-ce pas, sur justement l'importance de comprendre l'Écriture dans la tradition, c'est-à-dire en harmonie avec ce que l'Église, les chrétiens de tous les temps, ont compris et dont les pères nous portent témoignage. Ensuite, ceci n'est pas dit explicitement, mais cela ressort nettement du texte, le semeur, c'est le Christ lui-même. La semence, c'est la parole de Dieu. Et les différents terrains sur lesquels la semence tombe correspondent aux dispositions diverses des auditeurs, dispositions qui conditionnent la fructification de la parole. Cette parabole nous montre bien que la parole du Christ en elle-même a l'efficience souveraine de la parole de Dieu. C'est une parole qui est capable, nous le savons par tous les autres textes de l'Évangile, qui est capable de guérir les malades, de ressusciter les morts. Mais cette parabole nous montre aussi qu'elle peut être tenue en échec par les mauvaises dispositions des auditeurs. Et c'est de là que vient l'échec apparent de l'œuvre du Christ. Ses causes, nous dit le Seigneur lui-même, c'est la superficialité des auditeurs, le rattachement au monde présent, et aussi l'action de Satan qui déchaîne la grande tribulation eschatologique, la tentation au sens fort du mot, qui est vraiment l'épreuve à laquelle les croyants des derniers temps, qui sont les temps d'Église, se trouvent confrontés. Et pourtant, la parabole nous laisse entrevoir aussi la certitude de la récolte finale, et d'une récolte qui dépasse de loin toute réalité matérielle. En Palestine, à l'époque du Christ, il paraît qu'on estimait qu'une récolte de 10 pour 1 était déjà une très belle récolte. Par conséquent, les chiffres que nous donne ici le Seigneur, 30, 60, 100 pour 1, a quelque chose d'absolument fabuleux, et ces chiffres veulent évoquer toute la plénitude eschatologique, ils veulent nous montrer quelle est la plénitude débordante de cette récolte qui sera le fruit des semailles qui sont l'œuvre du Christ. Par conséquent, dans cette parabole, nous pouvons déduire deux choses, et ce sont les deux points sur lesquels la tradition de l'Église a insisté, les deux points que nous retrouvons dans différents commentaires des Pères. D'une part, il y a une leçon, je dirais, morale, un appel à s'examiner soi-même, à voir comment l'on répond à la parole de Dieu, comment nous l'accueillons. Est-ce que nous y ouvrons véritablement notre cœur en plénitude? Est-ce que nous sommes cette bonne terre? Ou au contraire, est-ce que nous ne laissons pas les soucis du monde étouffer la parole? Ou bien est-ce que lorsque l'épreuve, lorsque la croix se présente, eh bien notre foi ne vacille-t-elle pas? Et ne laissons-nous pas, là encore, le bon grain s'enfuit en nous? Mais d'autre part, l'autre aspect de cette parabole, c'est une leçon d'espérance, une leçon de joie et de confiance, une invitation à tous ceux qui, d'une manière ou d'une autre, sont engagés dans cette œuvre du royaume, de ne pas se décourager, malgré les échecs et les résistances, la moisson dépassera toute espérance. Il y a, je dirais, comme deux aspects dans cette parabole, une leçon d'espérance, cette certitude de l'avènement du royaume, et cette plénitude débordante de l'avènement définitif du royaume à la fin des temps, cette certitude que le royaume de Dieu apporte en lui une force qui triomphera de toutes les oppositions, de tous les échecs, mais en même temps une invitation à la vigilance, une invitation à accueillir d'un cœur pleinement ouvert cette parole de Dieu qui est appelé à produire en nous ses fruits. Je peux vous lire quelques textes des Pères qui commentent cette parabole. Voici par exemple ce qu'écrit saint Jean Chrysostome dans ses homélies sur saint Matthieu. Un semeur sortit pour semer. D'où pouvait sortir celui qui est présent en tout lieu et qui remplit toutes choses? Son déplacement n'appartenait pas à l'espace, mais résidait en son aspect extérieur et dans la gestion qu'il assumait de nos biens, en devenant plus proche de nous par un vêtement de chair. Donc, cette sortie du semeur évoque pour saint Jean Chrysostome l'incarnation. Le Christ qui, d'une certaine manière, sort, n'est-ce pas, du sein du Père pour venir vers nous sans être absent cependant de ce sein du Père. Comme nous ne pouvions plus aller vers lui, comme puisque nos péchés nous en interdisaient le chemin, il vint lui-même vers nous. Et pourquoi vint-il? Pour ravager la terre envahie par les épines? Pour punir les laboureurs? Non, mais pour cultiver cette terre et en prendre soin, et pour y semer une parole d'amour. Car la semence, c'est sa parole, le champ, c'est l'âme humaine. Et c'est lui-même le semeur. De cette semence, il fit trois parts. Une quatrième fut mise de côté, elle n'était pas égale aux autres, et la différence fut grande au contraire. Et pourquoi, me demandes-tu, répandre la semence dans les épines, dans les pierres et dans les chemins? Pour des semailles terrestres, ce serait sans raison. Mais quand il s'agit des âmes et de leur enseignement, c'est chose qu'on ne saurait au contraire trop louer. Un cultivateur serait à bon droit blâmé s'il agissait de la sorte. La pierre ne peut être changée en terre. Le chemin restera un chemin et les épines des épines. Mais il n'en est pas de même chez les êtres doués de raison. Chez eux, la pierre peut être changée en terre fertile. Le chemin qui n'est plus foulé par tous les passants peut devenir un champ riche. Et les mauvaises herbes, les épines elles-mêmes, peuvent être arrachées de sorte que le bon grain fructifie. Si cela n'était pas possible, le semeur n'aurait pas semé. Et si ce changement ne se produit pas chez tous, cela ne vient pas du semeur, mais de ceux qui refusent de changer. Donc vous voyez, là, il y a un petit glissement, bien sûr, dans l'interprétation, mais c'est de ce jeu extrêmement légitime dont je parlais la dernière fois, cette vie de la parole au sein de l'Église, qui fait que le prédicateur peut exploiter diversement tel ou tel trait de la parabole pour faire passer un enseignement qui correspond parfaitement à la doctrine générale de l'Évangile. Et ici, dans le fait que le semeur jette ainsi sa semence, même sur de la mauvaise terre apparemment, montre cette miséricorde de Dieu qui s'adresse à tous, sachant que, au fond, tous sont libres et peuvent ainsi, finalement, changer leur mauvaise disposition en bonne disposition. Mais la liberté humaine étant ce qu'elle est et le demeurant, certains peuvent refuser cette parole, refuser de la laisser fructifier, et à ce moment-là, nous revenons au texte même donc de la parabole. Un autre auteur, c'est un pseudo-Chrysostome, c'est pas Saint-Jean Chrysostome, mais un auteur inconnu dont les commentaires sont gardés sous le nom de Saint-Jean Chrysostome, écrit ceci. Quel est celui qui sortit ? Le Christ descendu du ciel dans le monde. Le Christ, en effet, est le semeur. Donc cette idée, n'est-ce pas, que le semeur sorti évoque l'incarnation du Christ, est très, très classique chez les pères, très obvie d'ailleurs comme interprétation. La semence est la parole divine, la terre labourée, c'est la nature humaine. Les bœufs sont les apôtres, la charrue, c'est la croix. Le joug est la charité qui, avec douceur, enserra le cou des apôtres. Un semeur sorti pour semer, non du blé, ni de l'or, ni du millet, ni rien de terrestre, mais la foi au Père, au Fils et au Saint-Esprit, l'espoir de la résurrection, l'amour envers Dieu et envers les hommes, et non pas un amour simulé et indifférent. Les grains qui tombèrent le long du chemin, ce sont les Ariens, ceux qui tombèrent parmi les épines, les Eudomiens. La bonne terre, c'est le cœur de ceux qui ont une foi droite, la foi orthodoxe. Celui qui croit produit 30, celui qui espère 60, celui qui brûle du feu de la charité produit 100. Puis là, une explication allégorique, si vous voulez. Bien sûr, ce n'est pas le sens immédiat du texte évangélique, mais c'est très légitime aussi de l'interpréter dans ce sens. L'accueil de la parole étant conditionné par la rectitude de la foi et l'hérésie coupable étant l'un des principaux obstacles à cette fructification de la parole. Donc je vous cite simplement ces quelques exemples pour vous montrer comment, dans la ligne de l'interprétation la plus obvie du texte évangélique, les pères ont pu, je dirais, insister sur telle ou telle facette, développer tel ou tel aspect, très légitimement encore une fois, avec ce mode propre d'utilisation de la parole qui est celui, cette liberté qui est celle de l'Église dans sa tradition, mais restant fidèle à l'intuition profonde, fondamentale de l'Évangile. Venons-en maintenant à la parabole suivante, celle du grain qui pousse tout seul. Parabole qui, elle, je vous disais, est propre à l'évangile de saint Marc. Dans saint Marc 4, 26, c'est suivant. Et il disait, « Il en est du royaume de Dieu comme d'un homme qui aurait jeté la semence sur la terre et dormirait et se réveillerait de nuit et de jour. Or, la semence pousse et grandit sans qu'il sache lui-même comment. Car d'elle-même, la terre produit d'abord l'herbe, puis l'épi, puis du blé plein l'épi. Or, quand le fruit s'y prête, quand le fruit est mûr, aussitôt il y met la faucille, parce que la moisson est à point. » Cette parabole insiste sur le fait que le royaume de Dieu est une force, que le royaume de Dieu porte en lui-même, c'est une force de germination, de fructification qui, d'une certaine manière, est indépendante de l'effort humain. Cette parabole n'est pas là pour nier ce qui a été dit précédemment sur l'importance des dispositions humaines. Les dispositions humaines sont nécessaires sur le plan de l'accueil de la parole. Mais la force de la parole, son efficacité, n'est pas quelque chose qui vient du dehors, ne dépend pas, comme tel, de l'effort humain. Tout ce que l'homme peut faire, c'est de la laisser ou non fructifier. Mais en elle-même, elle porte cette vertu. On peut dire que le royaume de Dieu n'est pas fait de main d'homme. Ce n'est pas à l'homme de le construire par ses propres forces. Et certains commentateurs ont pensé que dans cette parabole, le Christ s'opposait aux zélotes qui voulaient, par la force, amener l'instauration du royaume messianique en rejetant le joug des Romains. Donc conception à la fois temporelle du royaume, opposée à la conception intérieure du royaume, mais aussi cette idée que l'homme pouvait en quelque sorte construire lui-même par ses propres forces, par son effort, le royaume, en provoquer l'avènement. La parabole nous enseigne qu'il ne s'agit pas de substituer l'action humaine à la force interne de la grâce, à la force interne du royaume. Et c'est pourquoi les commencements du royaume sont humbles, ne sont pas une œuvre de puissance telle que l'homme pourrait le concevoir. Et ce royaume doit se développer progressivement, étape par étape. Il y a un temps pour chaque chose. Un temps pour les semailles, un temps pour la croissance, qui elle-même comporte divers moments, puis un temps pour la récolte. Et ceci s'applique aussi bien sur le plan collectif, le royaume de Dieu en tant que réalité ecclésiale, que sur le plan de la vie personnelle de chacun. Sur le plan individuel, il ne faut pas, là, ici encore, vouloir brûler les étapes, vouloir obtenir les résultats avant s'en suivent les étapes normales du développement de la vie spirituelle, développement normal de la grâce en nous. Comme Saint Jean Climac qui revient si souvent dans son échelle, n'est-ce pas, la vie spirituelle est une réalité progressive, et l'une des plus graves illusions qui risque de tout stériliser la vie spirituelle est de vouloir parvenir à des résultats, de vouloir réaliser en nous des états spirituels correspondant à un niveau plus ou moins relativement avancé, alors que les étapes inférieures, les étapes intermédiaires ne sont pas encore accomplies. Cette interprétation est parfaitement conforme au sens originel de la parabole. Mais sur le plan collectif, avant la vie de l'Église, c'est la même chose. La vie de l'Église se développe selon des phases diverses, et c'est seulement à la fin des temps que l'accomplissement, que le triomphe eschatologique du royaume se manifestera. Et en attendant, c'est une croissance lente, obscure, qui peut sembler presque inexistante, au moins qui est tout à fait inapparente. Il faut savoir accepter le mystère de la croix, une apparente inaction divine, Dieu qui semble ne pas intervenir pour provoquer tout de suite l'avènement visible et palpable du royaume. Finalement, il faut accepter ce mystère de la croix. La résurrection sera le fruit d'une participation à la croix du Christ. Nous y reviendrons. Tout ceci, bien sûr, n'est pas dit explicitement dans le texte évangélique, mais c'en est son sens profond. Et encore, je vous lis quelques textes des Pères qui prolongent cette interprétation. C'est un texte, ceci est un texte de Théophylacte, qui est l'un des principaux commentateurs byzantins des évangiles. L'homme qui sème est Dieu lui-même, qui pour nous a été fait homme. Il jette la semence sur la terre par la prédication de l'évangile. Et l'ayant jeté, il s'endort, c'est-à-dire qu'il monte aux cieux. Bien que Dieu puisse paraître dormir, la semence lève. Elle lève de nuit, quand à travers les tentations, Dieu suscite en nous sa connaissance. Elle lève de jour, quand il dirige notre vie dans les moments agréables et doux. Donc là, cette alternance évoque, n'est-ce pas, les aspects d'épreuve, aspects plutôt de consolation, dans à la fois la vie spirituelle personnelle et aussi la vie de l'Église. La semence croît sans qu'il le sache, car nous possédons le libre arbitre, et suivant notre choix, la semence peut croître ou non. Ce n'est pas contraint et forcé que nous portons du fruit, mais spontanément, de nous-mêmes, quand nous sommes encore enfants, et non parvenu à la mesure de Jésus-Christ. C'est le stade de l'herbe. Nous produisons des épis quand nous devenons capables de résister à la tentation. Puis l'épi se remplit de blé quand nous progressons vers la perfection. Quand c'est le temps de la moisson, alors vient la faux, qui est le verbe de Dieu, et par la moisson, il faut entendre la consommation des siècles. La parabole suivante est celle du grain de senevé, qui, elle, se retrouve dans les trois synoptiques. La voici dans le texte de saint Matthieu. Il leur proposa une autre parabole, disant : Le royaume des cieux est semblable à un grain de senevé qu'un homme a pris et semé dans son champ. C'est, certes, la plus petite de toutes les graines. Mais lorsque le sève a cru, il est plus grand que les plantes potagères. Il devient un arbre, de sorte que les oiseaux du ciel viennent et s'abritent dans ses branches. Et cette parabole peut être lue en même temps que celle du levain qui lui fait suite, que l'on trouve dans saint Luc et saint Matthieu, qui lui est très proche. Il leur dit encore une autre parabole. Le règne des cieux est semblable à du levain qu'une femme a pris et caché dans 3 mesures de farine jusqu'à ce que tout ait fermenté. Dans ces 2 paraboles, ce qui nous frappe au premier abord, c'est le contraste que le Seigneur établit entre les humbles commencements du royaume et son magnifique épanouissement eschatologique. La première image, celle de l'arbre, est biblique, et nous pouvons y voir plus ou moins une réminiscence d'un texte d'Ézéchiel que voici. C'est dans le prophète Ézéchiel, chapitre 17, versets 22 et suivants. Ainsi parle le Seigneur Dieu. Moi, je prendrai à la cime du grand cèdre, au plus haut de ses rameaux, je cueillerai une jeune pousse, et je la planterai moi-même sur une montagne élevée et altière. Sur la montagne d'Israël, je la planterai, elle poussera des branchages, elle produira du fruit et deviendra un cèdre magnifique. C'est le reste d'Israël, n'est-ce pas, que Dieu prélève en quelque sorte sur le peuple d'Israël qui va être brisé et qui va devenir le point de départ du royaume eschatologique. Toutes sortes d'oiseaux habiteront sous lui, toutes sortes de volatiles reposeront à l'ombre de ses branches, et tous les arbres de la campagne sauront que c'est moi, le Seigneur, qui abaisse l'arbre élevé et qui élève l'arbre abaissé, qui fait sécher l'arbre vert et fleurir l'arbre sec. Moi, le Seigneur, j'ai dit et je fais. Donc ce texte d'Ézéchiel, c'est une annonce du royaume messianique, ce petit reste d'Israël qui va devenir le point de départ de l'accomplissement définitif du dessein de Dieu et s'étendant à toutes les nations. Là, ces oiseaux du ciel qui viennent s'abriter sous les branches de ce cèdre évoquent toutes les nations de la terre. C'est la dimension universaliste du royaume annoncée par le prophète qui est évoqué ici. Et le texte évangélique a, selon la plupart des interprètes, cette signification. Donc la parabole du grain de sève qui devient un grand arbre veut évoquer là encore la puissance interne du royaume, cette force de germination, de croissance qui est en lui, mais en évoquant ce qu'on pourrait appeler sa force extensive, sa capacité, n'est-ce pas, d'abriter ensuite toutes les nations. C'est déjà toute la vocation des nations païennes qui est ainsi évoquée, l'entrée des nations païennes dans le royaume. D'autre part, l'autre parabole, celle du levain, évoque plutôt la force intensive, assimilatrice du royaume. Et là, les pères ont beaucoup développé cette parabole avec une certaine prédilection et dans des sens très divers, mais toujours dans cette perspective. Voici comment un exégète protestant contemporain résume les interprétations des pères sur cette parabole du levain. Mis dans la pâte. Que d'idées, que de nuances exprimées dans cette parabole si simple. Les commentaires des pères, souvent fort pénétrants, permettent de mesurer sa richesse. Pour les uns, cette femme qui cache le levain dans 3 mesures de farine, c'est l'Église qui va conquérir le monde. Le levain, c'est l'Esprit Saint qui doit pénétrer en tous et faire de tous les chrétiens réunis un Christ unique. Pour d'autres, les 3 mesures de farine, c'est l'esprit, l'âme et le corps qui sont ramenés à l'unité. Ou c'est encore les 3 comportements de l'âme, les passions principales de l'âme, qui sont ainsi pénétrées, qui sont ainsi fondues dans l'unité et transfigurées par le levain de la grâce. La femme, c'est aussi pour les pères la sagesse de Dieu. Les 3 mesures de farine correspondent aux 3 parties de l'homme dont il était mention dans le commandement que le Christ a dit être le plus grand. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. Donc encore, tout l'être de l'homme, n'est-ce pas, qui est saisi, qui est transfiguré par la force du royaume, la force de l'Esprit Saint. Le levain, enfin, c'est le Christ lui-même. Il était caché dans la loi ancienne. Il commence à se manifester dans l'Évangile et c'est lui qui ramène tout à l'unité. L'auteur qui résume ainsi donc ces interprétations patristiques dit « Nous ne chercherons pas à choisir parmi toutes ces interprétations diverses, car les unes et les autres sont les facettes d'un même diamant. Elles montrent chacune un aspect de la vérité exprimée ici par le Christ. » Oui, l'intérêt là, de ces interprétations, c'est de montrer que ces paraboles peuvent être appliquées toujours soit à l'Église, soit à la réalité collective du royaume, soit à son aspect intérieur. Et cette interprétation qui voit là dans ces trois mesures de farine la totalité de l'homme, n'est-ce pas, qui est saisi et qui fermente en quelque sorte et qui est transfiguré par la puissance du royaume, est une très très belle image de toute la vie spirituelle. Voici par exemple ce qu'écrit Saint Jérôme, qui est sur ce point un écho d'une tradition ancienne qui par Origène remonte peut-être même à... Les interprétations des textes. Cette parabole du levain mis dans la femme. Que d'idées, que de nuances exprimées dans cette parabole si simple. Les commentaires des pères, souvent fort pénétrants, permettent de mesurer sa richesse. Pour les uns, cette femme qui cache le levain dans trois mesures de farine, c'est l'Église qui va conquérir le monde. Le levain, c'est l'Esprit Saint qui doit pénétrer en tous et faire de tous les chrétiens réunis un Christ unique. Pour d'autres, les trois mesures de farine, c'est l'esprit, l'âme et le corps qui sont ramenés à l'unité. Ou c'est encore les trois comportements de l'âme, les passions principales de l'âme, qui sont ainsi pénétrées, qui sont ainsi fondues dans l'unité et transfigurées par le levain de la grâce. La femme, c'est aussi pour les pères la sagesse de Dieu. Les trois mesures de farine correspondent aux trois parties de l'homme dont il est fait mention dans le commandement que le Christ a dit être le plus grand. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Donc là encore, tout l'être de l'homme, n'est-ce pas, qui est saisi, qui est transfiguré par la force du royaume, la force de l'Esprit Saint. Le levain enfin, c'est le Christ lui-même. Il était caché dans la loi ancienne. Il commence à se manifester dans l'Évangile et c'est lui qui ramène tout à l'unité. Et l'auteur qui résume ainsi donc ces interprétations patristiques dit « Nous ne chercherons pas à choisir parmi toutes ces interprétations diverses, car les unes et les autres sont les facettes d'un même diamant. Elles montrent chacune un aspect de la vérité exprimée ici par le Christ. » Oui, l'intérêt là de ces interprétations, c'est de montrer que ces paraboles peuvent être appliquées toujours soit à l'Église, soit à la réalité collective du royaume, soit à son aspect intérieur. Et cette interprétation qui voit là dans ces trois mesures de farine la totalité de l'homme, n'est-ce pas, qui est saisi et qui fermente en quelque sorte et qui est transfiguré par la puissance du royaume, est une très très belle image de toute la vie spirituelle. Voici par exemple ce qu'écrit Saint Jérôme, qui est sur ce point un écho d'une tradition ancienne qui par Origène remonte peut-être même au premier presbytre de l'Église, une tradition très ancienne dans l'Église. Cette femme qui prend du levain et le cache en trois mesures de farine, jusqu'à ce que toute la pâte soit levée, me paraît être soit la prédication évangélique, soit l'Église, qui est formée de diverses nations rassemblées. Elle prend du levain, c'est-à-dire la connaissance de l'intelligence des Écritures, et elle le cache dans trois mesures de farine, afin que l'esprit, l'âme et le corps, ramenés à l'unité, ne soient pas en désaccord entre eux. Ce passage comporte une autre interprétation. Nous lisons dans Platon, et l'enseignement des philosophes nous révèle qu'il y a trois comportements moraux dans l'âme humaine, conformes à la partie supérieure de l'homme, puis ce qu'on appelle le mens, n'est-ce pas, l'intellect, puis la puissance irascible, la puissance colérique de l'homme, et la puissance de désir, le concupiscible. Si Si nous recevons le ferment évangélique des Saintes Écritures, dont il est parlé plus haut, ces trois parties de l'âme humaine, ces trois comportements de l'âme humaine, sont ramenés à un seul, de telle sorte que nous possédions, dans la raison, la prudence, dans l'intellect, la prudence, dans la faculté irascible, la haine des vices, et dans notre faculté de désir, la soif des vertus, la soif du bien. Et tout cela se fait par l'enseignement évangélique que nous donne notre mère l'Église. Enfin, venons-en à la parabole du froment et de l'ivraie, telle qu'on la trouve dans saint Matthieu. Elle se trouve seulement dans saint Matthieu, chapitre 13, versets 24 et suivants. Il leur proposa une autre parabole, disant « Le règne des cieux, le royaume des cieux, pourrait être comparé à un homme qui a semé de la bonne semence dans son champ. Or, pendant que les hommes dormaient, son ennemi vint et sema par-dessus de l'ivraie au milieu du froment et s'en alla. Quand l'herbe eut poussé et que le fruit fut noué, alors apparut aussi l'ivraie. Les serviteurs du maître de maison vinrent lui dire « Seigneur, n'as-tu pas semé de la bonne semence dans ton champ? D'où vient donc qu'il y a aussi de l'ivraie ?» Il leur dit « Un homme ennemi ou l'homme ennemi a fait cela. » Ils lui dirent « Alors veux-tu que nous allions la ramasser ?» Il dit « Non, de peur qu'en ramassant l'ivraie, vous ne déraciniez avec elle le froment. Laissez-les croître ensemble jusqu'à la moisson, et au temps de la moisson, je dirai au moissonneur, ramassez d'abord l'ivraie et attachez-la en bottes pour la brûler. Quant au froment, amassez-le dans mon grenier. » Ce que cette parabole évoque directement, c'est évidemment le mélange des bons et des mauvais dans le royaume. Et un commentateur contemporain dit ceci, au premier abord, quand on voit le royaume de Dieu sous sa réalisation terrestre, quand on voit l'Église, c'est comme si Dieu lui-même se laissait manœuvrer et vaincre par les forces mauvaises. En réplique à nos impatiences humaines, la parabole montre la patience de Dieu et la certitude du triomphe final. Cette coexistence des justes et des pécheurs dans l'Église montre bien, d'une part, que les hommes ne sont pas en mesure de faire le tri. Ce n'est pas à nous, là encore, ce n'est pas une œuvre humaine d'opérer ce tri. Le royaume de Dieu n'est pas l'œuvre des hommes, c'est un royaume fait de main d'hommes. Et ceci se traduit par l'injonction du Seigneur de ne pas opérer nous-mêmes ce discernement, ce tri entre les hommes. Il faut donc attendre le moment de Dieu et avoir la certitude que le temps du jugement, du discernement définitif viendra, mais qui sera alors l'œuvre de Dieu. Donc c'est encore ici une leçon de patience, voyez-vous, une leçon d'espérance et de foi dans cette action de Dieu qui peut paraître déconcertante à l'homme, mais qui s'accomplira, qui se réalisera avec toute la certitude la plus absolue et qui peut vraiment fonder toute notre espérance et constituer un encouragement puissant pour toute cette participation à l'œuvre du royaume. Donc, dans toutes ces paraboles que nous venons d'examiner, nous retrouvons toujours un contraste entre l'aspect présent du royaume, qui est un aspect humble. Le royaume de Dieu, sous sa forme actuelle, est peu apparent. Il peut même sembler parfois inexistant. On peut avoir l'impression que toutes les puissances hostiles ont le dessus, que Dieu dort, en quelque sorte, laisse faire. Contraste entre cet aspect donc présent, humble du royaume, et puis l'achèvement eschatologique. Mais encore dans la parole du levain tout à l'heure, n'est-ce pas, on voit toute cette masse énorme de farine, n'est-ce pas, c'est, d'après les commentateurs, ces mesures de farine représentent une quantité de farine tout à fait disproportionnée à ce qu'une ménagère prépare normalement. Ce sont ces 40 litres de farine, n'est-ce pas, qui est ainsi transformée, transfigurée par la puissance du levain. Donc c'est toujours cette espèce d'intensité eschatologique qui est évoquée, mais ceci se réalisant de façon tout à fait humble, tout à fait cachée, tout à fait voilée. Et c'est pour cela que nous pouvons dire, je pense, en conclusion, que ce que le Seigneur nous révèle sous cette forme parabolique, c'est c'est déjà le mystère de la croix, le mystère de son avènement messianique par la croix. Plus tard, quand le Seigneur parlera ouvertement aux apôtres, après la confession de Pierre à Césarée, après la transfiguration, eh bien, quand le Seigneur leur parlera, leur dévoilera ainsi en clair son message, ce sera toujours pour leur annoncer que c'est à travers la souffrance, à travers la croix, à travers sa passion et sa mort, que sa mission messianique se réalisera. Il fallait que le Christ souffrit pour entrer dans son royaume. Et tout le destin de l'Église est de participer à ce mode crucifié, crucifiant de salut messianique. Par conséquent, tout cet aspect humble, déconcertant du royaume ici-bas, c'est précisément la présence de la croix du Christ, sous ses différents aspects. Tout cela ne fait que la réfracte, bien sûr, et développe ça sous des aspects très divers. Mais si nous voulons ramener cela à l'unité, finalement, c'est cela. C'est cette idée que le royaume de Dieu, ici-bas, se réalise sous les aspects de la croix. Donc, d'une manière extrêmement déconcertante pour l'homme. D'une manière, je dirais, apophatique, voyez-vous. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas du tout d'un royaume tel que nous le concevons, tel que notre intelligence humaine, et c'est elle-même, peut le concevoir, et tel que nous voudrions le réaliser si nous agissions selon notre logique purement humaine. Mais c'est une œuvre proprement divine qui s'accomplit à travers l'humiliation, à travers la patience, le respect aussi des temps, le respect de la liberté humaine. Mais en même temps, nous pouvons avoir la certitude que derrière tout cela, eh bien, l'œuvre de salut s'accomplit et éclatera dans cet avènement eschatologique du royaume et du Christ, vrai roi de ce royaume. C'est donc déjà toute une apocalypse, on peut dire, qui est évoquée. Alors vous voyez comment, pourquoi vraiment le Christ parle en parabole, comme je vous le disais l'autre jour. Il ne pouvait pas annoncer ouvertement aux foules ce mystère de la croix qui aurait heurté de front toutes les convictions et toute la mentalité de ses auditeurs. Il pourra le faire aux apôtres quand ceux-ci auront déjà accueilli la parole, accueilli le message des paraboles. Et à ce moment-là, alors les apôtres, éclairés intérieurement par le Père, pourront, dans une certaine mesure, recevoir et accueillir dans la foi ce message de la croix, quand ils le comprendront bien mal. Mais le Christ pourra au moins leur en parler explicitement. Tandis qu'ici, tout ceci est évoqué d'une façon extrêmement caché, extrêmement voilé, mais qui en révèle en même temps le sens profond. C'est une initiation au mystère de la croix, au mystère du salut par la croix, qui nous est donnée ainsi par les paraboles. Alors, la prochaine fois, nous verrons la suite de ces paraboles du royaume et quelques autres qui peuvent s'y rapporter, mais mettant l'accent davantage sur l'accueil et la réaction qui doit être la nôtre devant l'annonce du royaume.
Donnant la référence de
ces évêques protestants qui a un tableau récapitulatif. Alors, il s'agit d'un ouvrage fort intéressant qui est d'un évêque protestant qui s'appelle Piévreux. 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 Un ouvrage. Parce que tout un dossier patristique qui est assez vraiment bien conçu et très utile pour une lecture justement traditionnelle de l'Évangile. C'est un ouvrage qui a dû paraître vers 1946, je crois, très peu de temps après la guerre. Je ne connais pas l'éditeur. Qui a été fait au XVIIe siècle par un certain Cornelius à Lapide, qui est en latin, donc pas très accessible, mais qui est intéressant parce qu'à propos de chaque verset des évangiles, il établit une sorte de chaîne de témoignages patristiques citant les commentaires principaux des pères. C'est également très, très enrichissant pour une lecture de ce genre de l'écriture.
Oui. Est-ce qu'il y a une signification au fait que le Sauveur emploie des termes différents dans la parabole du semeur, quand il dit celui qui ne comprend pas la parole, ensuite il dit c'est celui qui l'entend et la reçoit. Est-ce qu'il y a une signification à ces différences de vocabulaire?
Dans la parabole du semeur, je cherche le texte. Dans l'explication de la parabole.
Dans l'explication.
dans ça dépend un peu des évangélistes. Hein. Dans saint Matthieu, c'est l'expression bon, ceux qui après avoir entendu la parole la reçoivent aussi et aussi aussitôt avec joie. Un peu plus loin, ceux qui la parole qui tombe dans les épines, ceux qui ont entendu la parole, mais les soucis du siècle viennent étouffer.
Et les premiers sont ceux qui ne comprennent pas la parole, c'est ça?
C'est dans saint Matthieu.
Oui.
Oui, celui qui entend la parole du royaume ne comprend pas le maladien. Mais vous avez dans saint Marc, n'est-ce pas, lorsqu'ils ont entendu. Et dans saint Matthieu aussi, entendu. Donc je ne pense pas qu'il y en soit une différence. L'un insistera davantage sur l'aspect d'intelligence, une intelligence active, impliquant une ouverture de l'esprit, en engageant la liberté. Mm. Il y a une petite bande d'accentuation, si vous voulez, mais c'est l'équivalent. Mm.
Oui. Dans ces paraboles, le contenu du royaume n'est pas défini très nettement. Est-ce que en quoi il va différer du royaume de César? Le Christ ne le dit pas.
Oui, non, le Christ ne le dit pas explicitement, mais tout son enseignement le suggère précisément en montrant bien que ce royaume est l'œuvre de Dieu et n'est pas l'œuvre de la force humaine ni de. N'est pas une œuvre humaine, n'est-ce pas? Mais tout ceci est dit encore en filigrane.
Oui. Mais quand il dit aux gens, le royaume de Dieu est au-dedans de vous, est-ce qu'ils savent ce que nous avons au-dedans de nous?
Tout ceci est suggéré simplement, l'ensemble de l'enseignement du Christ amène petit à petit à le comprendre, mais bien sûr à des niveaux différents selon les auditeurs, selon leur préparation, selon leur accueil. C'est très discret, c'est extrêmement discret. Parce que le Seigneur veut d'abord préparer les esprits à recevoir une révélation qui dépasse totalement ce à quoi ils s'attendent, n'est-ce pas? Et puis aussi réserver leur liberté. Donc, s'exprimer d'une façon qui est déjà assez claire pour permettre une certaine prise de position, mais qui en même temps est quelque chose d'extrêmement ténu, extrêmement discret, pour ne pas anticiper sur ce qu'ils peuvent déjà comprendre, n'est-ce pas, et laisser à leur liberté la possibilité d'entrer en jeu.
C'est-à-dire que c'est finalement lui-même qui est le royaume. Alors,
oui.
Sans qu'il ne peut pas se définir lui-même.
Non, bien sûr. Mais évidemment, il ne donne pas une définition.
Que le public est très au courant déjà. Est-ce qu'il comprend de
ce que... Non, il est là.
Oui.
Le Christ est là.
Oui.
Et il sera là. Il sera là.
Il y a tout un ensemble d'impondérables qui viennent de sa présence, qui viennent de son être, de l'ensemble de ses paroles qui nous est rapportées ici aussi. Forcément, l'Évangile nous donne quelque chose d'un peu simplifié. L'Évangile ne nous donne pas une photographie de ce qui s'est passé, si je puis dire, un reportage journalistique de ce qui s'est passé. Donc nous sentons d'une façon très évocatrice, mais qui n'est pas descriptive.
Vous avez au début, il me semble, fait une distinction entre le règne et le royaume.
Oui.
Où est-ce que je me suis trompé?
Non, j'ai dit que c'était deux. C'est-à-dire que le même mot grec, n'est-ce pas, peut évoquer des réalités différentes, bien que liées. Il y a le pouvoir royal, il y a l'exercice de ce pouvoir qu'on peut traduire par règne, et puis il y a le domaine où s'exerce ce pouvoir qui est le royaume. Mais c'est le contexte, surtout dans les termes d'Ancien Testament, qui montre quelle est la traduction qui est la meilleure pour le même mot. Et c'est très lié, parce qu'on ne peut pas distinguer très clairement entre ces grandes exceptions.
Oui, ça préférera plutôt aux gens, à l'espérance des Juifs, précisément, et le règne du christianisme.
Ah, je ne pense pas. Je ne pense pas, non. Non, pas nécessairement du tout. Non, parce que ce ne sont pas des termes différents dans la Bible, c'est le même enseignement qui est véhiculé par ces différents termes. Oui. Oui.
Est-il que le bon grain et le vrai représentent des langues ne peut pas. Des êtres bons et des êtres mauvais.
Oui.
Mais qu'on ne peut pas l'interpréter aussi comme le mélange de ce qu'est bon et ce qu'est mauvais à l'intérieur d'un être.
Ah oui, absolument. Absolument, c'est légitime aussi. Les deux interprétations ne s'excluent pas, n'est-ce pas? Le mélange du bon grain et de l'ivraie est entre les hommes, il y a les bons et les mauvais dans l'Église, mais finalement, il y a en nous, n'est-ce pas, à la fois le bon grain et l'ivraie. Oui. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas lutter contre les tendances mauvaises qui sont en nous, n'est-ce pas, mais il y a aussi une patience à avoir à l'égard de... il ne faut pas vouloir, justement, être déjà parfait. L'élimination de l'ivraie en nous est une chose également progressive. Et chaque chose a son temps. Il faut une coopération de notre part, mais il faut aussi savoir attendre les moments de Dieu.